Show, l'émission qui vous évite de péter un câble.
Bonjour et bienvenue à tous dans le Tilt Show, l'émission 100% poker et locale. Je suis Aurore et dans le studio avec moi aujourd'hui, nous avons Tom.
Bonsoir.
Boule.
Bonsoir à tous.
Mes deux acolytes. Mais nous avons aussi un invité. Il s'agit de Polak.
Bonsoir à tous.
Alors Polak, on va parler de toi un petit peu dans tout le courant de l'émission. Tu nous diras ce que tu fais dans le poker, tout ça.
Très bien.
Le premier événement dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait avant le Club des Clubs, CDC, et qui s'appelle aujourd'hui CFEPA, qui est un quoi, Boule, d'ailleurs ?
Le CFEPA, c'est le Championnat de France par équipe de poker associatif. Ça a été créé, c'est une association qui a été créée en 2008 avec une vingtaine de clubs qui ont décidé de créer une association officielle qui était à l'origine appelée le Club des Clubs. Avec comme objectif d'accompagner le développement du poker associatif en France et de créer des compétitions individuelles et par équipe nationale. Le développement du Club des Clubs, il n'a jamais cessé d'augmenter pendant les 15 ans, jusqu'à arriver en 2023 où ils ont changé de nom, où ils sont devenus la Fédération Française de Poker Associatif. Donc ils proposent toujours deux championnats, un individuel, le CFIPA, donc le Championnat de France individuel de poker associatif, et le championnat dont tu viens de parler, le CFEPA, le championnat de France par équipe de poker associatif.
Donc grosso modo, si on joue dans un club aujourd'hui qui est affilié à la Fédération de poker, le championnat du club qu'on va jouer individuellement, ça va nous permettre de nous qualifier pour les championnats de France individuels. Et en même temps, on va avoir cet événement par équipe dont tu vas nous parler maintenant.
C'est ça, du coup, en fait, du coup, c'est une compétition par équipe qui est composée de 8 joueurs. Il y a 8 sit and go qui sont joués en simultané, en fait, avec un joueur de chaque club assis à chaque table. Et il y a 2 sit and go par joueur dans la journée. En fait, en tout, il y a 16 sit and go.
Un le matin, un le soir.
Un le matin, un l'après-midi, c'est ça. Et du coup, chaque joueur va engranger un certain nombre de points selon la position à laquelle il va être éliminé à sa table. Et nous allons ensuite du coup additionner l'ensemble des résultats de chaque joueur d'une même équipe pour obtenir le nombre total de points pour cette équipe. Et l'équipe ayant engrangé le plus de points à la fin de la journée, à la fin des 16 sit and go, en fait, remporte la manche, quoi.
Et il y a combien de manches ?
Du coup, cette année, il y en a 5 en tout de manches.
Voilà que tu confirmes.
C'est ça, oui, 5 manches. Avec, on a déjà fait 3 et donc il restera 2 au mois de mars à Gouvieux et à Pumba Saint-Sauveur, au club de Saint-Sauveur.
Et après, du coup, on décide qui va en demi-finale. Enfin, c'est comme un championnat classique, les meilleurs.
Exactement. En fait, sur une poule de 9, là, il y a 9 équipes, dont une nouvelle cette année, Warmeryville, qui vient de Reims, de la Marne.
Tu prononces ça tellement bien.
j'ai travaillé. Et donc, sur notre poule d'Oise, donc il y aura 3 qualifiés. Les 3 premiers, après, peu importe l'ordre, se retrouveront en demi-finale avec les 3 premiers de la poule Somme, où il y a des clubs comme Resson, Montdidier, Abbeville, Amiens notamment. Et donc les 2 vainqueurs de cette demi-finale ou finale régionale se retrouveront en grande finale nationale où il y aura 16 équipes, le grand événement, on va dire le Saint Graal du poker associatif, avec au bout le titre de champion de France poker associatif, Fédération Française de Poker. Quoi.
Par équipe.
Par équipe, exactement.
Du coup, pour un sport individuel, on est en équipe. C'est quand même assez rare. Quand même.
Oui, c'est vrai. Du coup, on peut aussi avoir cet esprit d'équipe-là et pas jouer que pour sa gueule. Quoi.
Qui est très important, d'ailleurs. Puisque, notamment, le fait de jouer en équipe, ça apporte des points, ça apporte une convivialité, ça apporte aussi plein de bons moments d'échange, de partage, de façon de jouer, une diversité... au niveau pokeristique, on va dire, et qui est très très importante, surtout pour ce style de jeu, de format, Il y a une autre ligue aussi qui existe, c'est la Ligue française de poker, où là, le format est en format MTT multitable, pour décrire. Et donc, il y a à peu près la même chose. Donc, c'est deux fédérations différentes, mais qui, au bout, ont vraiment... qui permettent aux clubs associatifs de pouvoir jouer, de pouvoir être aussi existant qu'un sport, tout sport comme le foot, comme... où au bout, il y a quand même un titre honorifique.
Ah oui, ça, c'est important. Et ça, tu sais tout ça parce que tu es le capitaine de ton équipe.
Exactement,
Paul,
exactement. Et qui dit capitaine,
60,
dit...
c'est ça. Hein.
Exactement, le 60 Poker Club, donc créé en juin 2008. Et pour nous, au championnat de France, c'est notre 10e participation cette année. On a réussi à faire 7 demi-finales sur 9 ans et une finale à Saint-Provence en 2019, où nous avons fini 6e. Donc c'était, on va dire, notre meilleur score. Et donc, on essaie...
Sixième parmi combien, tu te souviens ou pas?
Bah, du coup, je crois que, sans raconter de bêtises, on devait être 181 équipes au départ.
Ok.
Donc après, bah, le même format, qualifié départemental, régional, puis finale nationale. Avec un on y est allé avec Noyon notamment, qui aussi s'est qualifié cette année-là. Et donc un gros potentiel, on va dire, et surtout à Soissons où il y a une cinquantaine d'adhérents avec 40 joueurs réguliers le mercredi. Où on propose du Texas Hold'em, on propose aussi de l'OMA une fois par mois. Okay. Et qui permet aussi la diversité de tous les aspects pokeristiques, on va dire, dans ce jeu, où on essaie aussi de développer au maximum le bien-être des joueurs, c'est-à-dire les tables de poker, la jetonnerie que nous avons, notre jetonnerie personnelle. Et ça permet aussi, en étant dans les deux ligues, pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, on va dire, à la FFPA, de pouvoir jouer aussi sur l'autre ligue. Et donc avoir une multitude d'échanges, de partages et de convivialité au sein de l'association, quoi.
Du coup, à Soissons, vous faites tout. Vous faites les MTT de façon hebdomadaire.
C'est ça.
Vous avez l'affiliation à la FFPA pour jouer le CFEPA par équipe.
Exactement.
Et le CFIPA, du coup, en individuel. Et vous avez l'affiliation à l'autre ligue aussi pour jouer l'autre championnat.
C'est ça. Et donc là, sur la... Sur la FFPA, donc pour l'instant, nous sommes bien partis. Il faut concrétiser, il restera encore deux manches pour concrétiser et se qualifier.
C'est fou comme ils se la pètent à Soissons, non?
Non.
J'attendais celle-là.
Non. À Soissons, ils ont un truc, c'est la chatte.
Ah,
et tout le monde le sait dans la région, on appelle la chatte à Soissons.
Mais
impossible de gagner contre eux en all-in pré-flop.
Cette demi-finale sur...
Oui, bah avec la chatte, on peut y arriver.
Moi, je vous le dis. La régularité est là quand même.
Moi qui joue régulièrement contre eux, all-in pré-flop, on a perdu.
C'est parce qu'il n'a pas lu la page 14. Sacré au poker.
On va jouer pré-flop, c'est pour ça.
Oui.
Exactement. Mais oui, pour en revenir. Et donc aussi la Ligue française de poker, où le club, c'est sa première année, première participation. Et pour l'instant, dans la région Picardie-Champagne, parce qu'il y a des clubs de Champagne, il y a Châlons notamment, il y a Reims, etc. Plusieurs clubs, on est 5. Il y a Lens aussi qui a rejoint cette année cette ligue. Et donc pour l'instant, un très bon départ de l'équipe, bien parti pour se qualifier pour la finale nationale. Où il y aura, c'est à, que je ne raconte pas de bêtises, ça doit être à Balaruc, dans le sud. Donc pour la grande finale par équipe, où il y aura 4
connu comme village. Je pense que tout le monde va se situer directement.
On va dire que c'est entre du côté de Montpellier et Narbonne à peu près, voilà, pour être plus précis. Et pour en revenir, donc deux fédérations avec des modes de jeu différents, on va dire, d'un côté sit and go pour la FFPA et l'autre côté MTT, format MTT. Pour la Ligue française de poker, mais très très intéressant, surtout pour le développement d'un club. Ça permet à tout le monde de trouver son compromis, de jouer, etc. Et surtout de prendre du plaisir, quoi. Celui qui veut jouer, qui veut participer, il y a tellement à faire, une multitude de projets. Et surtout à Soissons, on essaie de faire cela. Aussi, on encourage aussi nos joueurs qui font des tournois. Qui vont par exemple à Saint-Amand dans les casinos, dans les clubs de jeu aussi, à des buy-in modérés aussi, et donc en fonction des bankrolls, parce que jamais se mettre au-dessus de ses limites, ça c'est très très important. Et ça permet aussi de jouer ensemble, de développer, de faire quelques résultats, mais toujours sur l'intérêt du club en fait. Le plus important c'est l'intérêt du club. dans le mode de sélection, par exemple, que je fais, moi, c'est avant tout, j'ai la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de joueurs qui on va dire, tiennent les cartes, c'est un argument, mais c'est surtout qui adhèrent à un projet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit passer au-dessus du club, et il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas de... Il faut surtout un intérêt commun, c'est le club avant tout, et le faire développer, et prendre du plaisir, surtout prendre du plaisir. Tom pourra confirmer, à chaque fois qu'il y a une étape, c'est super bien, c'est toujours des bons moments entre clubs, surtout l'échange, très très important pour nous. L'échange, le plaisir, après les résultats arrivent, il y a un jour c'est un club, un jour c'est un autre. Le but c'est de qualifier bien sûr, mais surtout un échange. C'est de l'associatif.
C'est un moment de convivialité avant tout.
Exactement.
Oui, les gens ils sont là à adhérer à une association, c'est du coup pour sortir un peu de leur quotidien aussi, faire autre chose.
Voilà.
Donc le côté fun.
Et jouer un autre poker, hein, parce que c'est vrai, comme dit Polak, le club passe avant le joueur en fait.
Quand on fait les championnats par équipe.
Les championnats par équipe, on joue pas pareil que comme si on allait jouer un tournoi à Saint-Amand ou pour soi en fait.
Mais non, c'est les décisions que tu vas prendre tout au long de la journée, elles sont pas pour toi personnellement. Ça va relater tout ça de.
Pas pour l'équipe en fait. Ça impacte l'équipe, ça impacte le club en fait.
Chaque décision que tu prends, c'est une décision d'ensemble. Après, ta décision, elle est importante, comme la décision de ton collègue à la table qui est à côté de toi. Chaque joueur a sa part de responsabilité, et c'est pour ça qu'il faut, comme tu disais, Polak, il faut toujours que ça soit centré dans l'intérêt du club et que ça soit dans cet état d'esprit-là, en fait.
C'est pour ça que c'est dur de trouver un groupe, en fait. Faut vraiment fédérer un groupe autour de soi, autour du club, en fait.
En étant affilié du coup à plusieurs ligues, vous, à Soissons, vous multipliez aussi les chances de votre club d'avoir un titre, enfin, au bout du compte, puisque vous participez à plusieurs choses. Mais dans le cadre des CFEPA notamment, comment tu choisis les joueurs qui vont faire partie de ton équipe? Parce que nous on le voit au club de Chevrières, on essaie de faire tourner un petit peu les joueurs. La capitaine en parlerait mieux que moi, mais d'étape en étape, elle essaie de faire tourner, de voir un peu comment les joueurs réagissent, comment ils jouent pour l'équipe, quel est leur esprit. Et puis, elle élimine de l'équipe ceux qui vont avoir des moins bonnes perfs pour laisser la place à d'autres, jusqu'à faire un choix pour les dernières étapes, et puis demi-finale s'il y a, comme il y a eu l'année dernière pour Chevrières. Mais à Soissons, vu que vous performez souvent, vous avez une recette magique à nous donner.
Ah, on ne va pas dévoiler tous les secrets. Non. Non, mais pour en venir, c'est jamais évident. Surtout la place du coach, parce que c'est des fois, il faut prendre des décisions qui peuvent peut-être toucher ou ne pas plaire à certains, mais moi, je pars toujours du principe de l'importance de l'équipe. C'est-à-dire que j'ai des joueurs, j'ai un vivier de joueurs à peu près entre 12 et 16 joueurs, on va dire quasi deux équipes possibles. Et donc, en fonction des étapes, déjà, est-ce que les joueurs sont présents?
Parce qu'il faut disponibles, pas
à côté, il y a les vies de famille, on sait très bien que c'est compliqué, etc. Donc ça, c'est le premier point, c'est qui est présent, qui peut être là, et à partir de là, ben, des fois, j'ai des choix à faire. Donc j'essaie toujours, en fonction de l'étape, de l'intérêt, de plein plein de choses, de beaucoup de paramètres, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Les performances des joueurs, la forme du joueur, la dynamique, j'en passe. Et donc, à partir de là, je crée mon équipe. Je pars sur un principe que j'emmène mes joueurs et ils vont jouer la première et la deuxième manche. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On a le droit des remplaçants, mais on n'est pas à l'abri. On arrive, on a deux rois, l'autre il a deux dames. On se fait craquer les rois, ils sautent, on ne va pas le punir. Il est pour rien, c'est le jeu. Voilà, la river, elle arrive ou je ne sais quoi. Bon. Mais dans l'ensemble, c'est surtout que le joueur que j'emmène, j'ai confiance. Un, parce que ça lui prend déjà toute sa journée. Ça, c'est très important. Et je ne vais pas le mettre pour 3 heures et surtout créer cet état d'esprit d'équipe, le soutien, le partage et le joueur par rapport à ses performances. Il y a un suivi, j'essaie aussi de faire tourner au maximum quand je peux intégrer des joueurs, des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont un potentiel. Mais ce n'est jamais évident. Des fois, il suffit qu'on soit un peu en retard au niveau du classement, au niveau des points. Et des joueurs d'expérience, des joueurs de... qui vont jouer plus agressifs, des joueurs plus en retrait parce que là, je vais avoir besoin de points. Essayer de créer l'osmose, l'alchimie, l'ensemble. Alors, c'est pas évident, je vous assure que des fois, c'est des choix compliqués, mais il faut les prendre. Et moi, surtout, je discute avec mes joueurs. C'est-à-dire que je suis coach, mais il y a des choses que je ne vois pas spécialement. Il s'est passé ça, ou là, il y a un nouveau joueur qui est arrivé dans l'équipe. Attention, lui, il joue, il tient les cartes, etc. Plein de petits détails, comme au poker. Hein. C'est ça, hein, on joue une table. Et donc, tout petit paramètre est très, très important. Et on essaie, justement... Avec tous mes amis et tous les joueurs que j'ai, Aldric, enfin j'en passe, des connus dans le secteur local, à vraiment prendre tous les petits paramètres pour tous les ans de recommencer et essayer de se requalifier de nouveau en demi-finale, ce qui n'est pas évident.
Et vous êtes bien parti ou pas là ?
Pour l'instant, ça va. On a fait un bon démarrage. Maintenant, il va falloir conclure et transformer l'essai, comme on dit au rugby.
On peut dire déjà, vous avez remporté du coup la deuxième manche.
Oui, exactement.
C'est à Chevrières. Et sur la première manche, vous aviez fait...
Quatrième,
tout à fait. Donc pour le moment, ça vous place quand même assez bien. Vous êtes dans les trois premiers qualifiés avec l'Étincelle et le Pumba. Donc, plus que deux manches à passer parce qu'il y a eu la manche qui s'est jouée à Nizy la semaine passée. J'ai pas encore eu les résultats officiels qui sont arrivés. Mais du coup, pour le moment, une belle perspective.
Oui, et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des clubs qui se développent très très bien dans le secteur. On voit Pumba depuis 2 ans qui vraiment développe du bon poker. Titi, toujours les places qualificatives. On a l'Étincelle qui, par la rigueur, par la discipline et l'état d'esprit aussi, et avec de bons joueurs aussi, qui commencent à perfer. On a eu PCO, donc à Chevrières, qui a réussi à aller plusieurs fois en demi. Donc, mine de rien. Et on a aussi l'ancien champion de France, Lan, qui a été champion de France il y a 5 ans. Qui est toujours dans notre poule et qui est toujours là pour batailler.
C'est redoutable.
Ah oui, exactement. C'est jamais évident. Hein. Et après, on a réussi cette année, on va dire le mercato poker, à leur prendre le joueur phare, Chris Canary, qui était ancien numéro 1 français individuel, qui est cette année chez nous. Et c'est une première parce que d'habitude, on n'a que des joueurs de Soissons qui jouent à Soissons. Soit formé à Soissons, mais qui ont toujours joué à Soissons et jamais dans notre club. Et cette année, c'est une première. J'en avais discuté avec lui.
Vous avez grappillé le joueur d'un autre club ?
Oui, aujourd'hui, ça c'est en fait. Et Chris Canary, qui est un excellent joueur, et ne savait pas s'il allait continuer ou pas. Et au fil de discussion, donc du coup, il a dit « Allez, banco, je viens avec vous ». Et j'ai aussi récupéré Vince, qui était ancien capitaine à Nizy, qui est formé à Soissons, qui est avec nous, et qui est de retour avec nous. Donc c'est vrai que pour en venir, j'ai cette chance d'avoir du choix, on va dire, ce qui n'est jamais évident. Et c'est un paramètre, Tom pourra te le dire, très très compliqué de faire une équipe, d'avoir tout le monde, d'avoir les joueurs qu'on aimerait avoir, etc. À l'instant T, c'est...
Oui, c'est une chance et en même temps, il faut pouvoir trancher. Donc,
exactement.
En tant que responsable, c'est pas si facile que ça. Après, il faut que les joueurs ils comprennent qu'effectivement, c'est pas une décision individuelle, c'est pas personnel.
C'est ça.
Quand tu les prends ou quand tu les prends pas. Mais l'avantage que tu as dit, c'est que tu dialogues beaucoup avec eux. Donc,
oui, c'est le...
Ça se fait dans la bienveillance et...
Exactement, et c'est surtout... moi, je suis ouvert à toute discussion. Il n'y a aucun problème, et pour l'intérêt du club, bien sûr. Il n'y a personne qui doit passer au-dessus du club. Façon de parler, l'institution, comme on entend au football, c'est pas toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est surtout l'intérêt général. On parle de qualification, d'aller chercher des titres. Donc voilà, tout le monde, on parle de représenter notre club, en fait.
Et en parlant d'aller chercher des titres... Que rapporte vraiment le titre FCPA ?
Alors,
à part la gloire.
Bah c'est surtout, en fait, c'est surtout.
Non, mais parce que c'est quand même une question intéressante dans le poker quand même, parce qu'on est quand même, on est joueur, on est tous pour gagner quelque chose en fait normalement. Donc je voudrais savoir.
Pour moi, c'est surtout, je parle du domaine associatif. Et sur l'associatif, alors c'est sûr qu'avant, il y avait PMU qui était sponsor, qui remettait des packages à 300, 500 euros pour des tournois qu'ils organisaient, eux, dans des casinos, etc. Aujourd'hui, il y a eu Winamax qui est arrivé en un an, enfin même pas en un mois.
Le nouveau sponsor
ils ont pris la LFP et la FFPA. Donc, ils vont remettre une nouvelle dynamique. Alors après, il va y avoir des lots, etc. Mais surtout, c'est le fait d'avoir le titre honorifique. Alors, c'est sûr, c'est symbolique. Mais par équipe, et croyez-moi, un amateur, c'est très très compliqué. Je vais citer je vais vous citer quelques grands clubs français. Par exemple, je vais prendre Arcane, qui est du côté de Bordeaux, qui ont sorti Jonathan Terme et Romain Lévis, qui sont de là-bas. Il y a Poitiers avec Adrien Guyon. Il y a beaucoup, beaucoup de clubs amateurs avec des semi-pros qui sont venus du secteur amateur et qui ont développé...
Ouais, beaucoup de joueurs pros qui sont devenus du monde amateur. D'abord,
Il faut bien commencer
quelque part, en fait.
C'est ça, et il y a beaucoup de clubs. Il y a une bonne dizaine de clubs qui sont toujours dans les 20 premiers dans le classement français, où ça développe énormément et ça s'attache justement, on voit régulièrement, on voit Arène du côté de la Normandie, il y a No Limite 63 du côté de Clermont, il y a Saloun du côté de Salon de Provence, et même dans le secteur, on voit Resson qui aujourd'hui est un très très gros club et qui se qualifie régulièrement pour la finale. Il y avait dans le Nord, bon cette année il n'y a pas de poule, mais dans le Nord aussi, à l'époque de Poker à Lille qui a été champion de France, enfin il y a vraiment de grosses structures amateurs, et ce qui est très très important pour le poker associatif, qui est la base pour moi du poker en France, quoi. Sans le poker associatif, automatiquement, c'est une valeur d'argent. Mais à côté, la symbolique d'un joueur, on va prendre un exemple ici qu'on connaît, qui a été champion de France au Red Cactus, Limper. Il part de tout en bas, il a son jeu, etc. Mais il y a le voir heureux, le voir avoir vécu ce qu'il a fait à Vegas, c'est une expérience que tout le monde aimerait. Les résultats, etc., c'est complètement notre domaine. Mais cette symbolique de partir de zéro et d'aller à Vegas pour zéro, et surtout pour un joueur amateur, ça arrivera qu'une fois dans sa vie. Et ce qu'il a vécu, c'est juste magnifique. Il faut être...
Il est bien déterminé à recommencer quand même. Hein.
On lui souhaite. Après, c'est compliqué. On l'a vu le week-end, il y a 15 jours au Red Cactus.
La finale nationale,
il faut passer entre les gouttes. C'est pas évident.
C'est dur, là, 400 euros. Oui, nos auditeurs, on n'est pas là pour gagner des millions.
Exactement.
Non, on prône le poker loisir, surtout, exactement, amateur. Surtout. Et puis, comme tu dis, Polak, si on arrive à décrocher pour notre club ou pour soi-même un titre honorifique, et voilà, c'est super. Ouais, dans la dernière émission, on parlait de Red Cactus et on parlait des énormes dotations qu'ils avaient pour leurs joueurs. Tout ça en partant de zéro, enfin, puisque c'est du poker gratuit, c'est du free roll. C'est quand même chouette. Il y a quand même des choses à faire dans le poker sans mettre un centime, quoi. C'est ça qui est beau.
C'est ça, et cette magie surtout. Il faut la garder, il faut la persévérer, il faut continuer, il faut que ça persévère, il faut que ça... C'est moi qui suis dans les deux, dans le monde professionnel et le monde amateur. Rien ne vaut pour moi le monde amateur. C'est la convivialité, le partage, l'échange, les sourires, la rigolade, le chambrage, mais c'est juste magnifique. On passe des bons moments et on se dit vivons la prochaine partie, quoi.
Et on l'a bien vu quand on était à Chevrières pour la manche des CFEPA, puisque l'équipe de Soissons était très très soudée. J'ai entendu beaucoup beaucoup d'encouragement de la part des joueurs qui ne jouaient plus par rapport pour encourager ceux qui jouaient encore. Vous étiez tous avec la banane, enfin c'était très bonne ambiance. Enfin en tout cas moi je l'ai vraiment perçu. Pourtant je ne jouais pas, mais c'était chouette à voir, ça fait plaisir.
C'est ça, et puis c'est toujours la même dynamique, on adore se jouer, s'affronter dans divers tournois et tout, mais c'est vraiment très important, et c'est justement ce qui soude une équipe, ce qui crée des liens, et après même quand on finit une étape, nous on a toujours à cœur de se faire un petit repas entre nous, entre joueurs, un petit débrief, etc., mais ça crée toujours une osmose, une communion. C'est très très important.
Ouais, même avec les autres clubs et tout, on aime se jouer en fait. C'est vraiment pas pareil le par équipe. Hein. Franchement, c'est vraiment agréable.
C'est plus agréable parce que c'est plus sérieux déjà. Les gens font attention. Encore une fois, tu joues pas pour toi, tu joues pour,
pour ton équipe. Pas forcément du sérieux, mais au niveau des rigolades entre même les gens en face de Chevrières, de Soissons.
Parce
qu'on se connaît, on se connaît assez régulièrement et du coup, tu te joues quand même assez régulièrement. Du coup, dans un cadre associatif et qui, voilà, il y a pas de pression d'argent non plus. Hein, c'est juste des points.
Je pense que ça joue beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'argent, justement, et c'est ça qui fait que c'est si convivial autour des tables. Parce que je pense que si tout de suite tu mets un enjeu, peu importe l'enjeu, mais
enjeu
financier, l'ambiance n'est plus la même autour de la table et c'est quand même un peu moins léger quand il y a de l'enjeu, quoi.
Moins de tilt.
on aime se taquiner, mais toujours dans le respect. C'est-à-dire qu'on va se chambrer. Mais toujours dans le respect. Et autre fait important aussi, qu'on, où on attache une importance à Soissons, c'est quand nous on se qualifie par exemple pour la demi ou si on arrive en finale, on représente les clubs qui sont éliminés. Donc automatiquement, on tient à faire les meilleurs résultats, parce que c'est jamais évident. Il y a des clubs qui aimeraient se qualifier, etc. Et quand on arrive à se qualifier, ben voilà, on représente la région, on représente le département et toutes les équipes qui étaient là au premier tour. Et puis le soutien, ben, l'équipe, si nous passons, on passe pas, ben, ce sera une autre. Et le but, c'est de soutenir et qu'ils aillent le plus loin possible, quoi.
C'est ça. Convivial et noble, c'est beau.
C'est de Soisson. Écoutez les prochains clubs. Et les petits détails, il a dit, écoutez bien le capitaine.
Après, on va pas donner toutes les ficelles. Mais...
C'est bien d'avoir ça à l'esprit, en tout cas, c'est que même si pour les clubs qui n'arrivent pas à se qualifier, d'être le premier supporter des clubs qualifiés.
Oui, très très vrai, important.
C'est important.
Très important.
Moi, je l'ai vu à la demi-finale l'année dernière. On a eu la chance de la faire à Chevrière, il y avait Soissons et
on avait Gouvieux.
Gouvieux avec nous, on était pour les clubs qui étaient avec nous dans la même poule en fait.
C'est ça.
Ce qui est normal.
On passe une année ensemble, voilà, on se retrouve à travers les tournois, du coup forcément ça rapproche un peu plus quoi.
Exactement.
C'est normal d'être pour ceux qu'on connaît.
Oui, c'est.
Oui, on connaissait les autres aussi, donc c'est pas pareil. T'as joué avec, tu t'es bataillé pendant 5 manches pour arriver là avec eux et voilà. Voilà.
Bien, merci beaucoup pour ce débrief sur du coup la CFEPA, championnat de France par équipe. On va passer
poker
à notre
associatif.
Poker associatif, absolument. On va passer à notre prochaine rubrique.
Du poker.
Et oui, les clés du poker, c'est notre rubrique où on essaie toujours de prendre un point de règle potentiellement litigieux et de vous l'expliquer, chers auditeurs. Aujourd'hui, Boule, de quelle règle parlons-nous ?
Du coup, aujourd'hui, on va profiter qu'on a un croupier en notre compagnie et du coup, on va lui demander à quel moment est-on obligé vraiment de montrer sa main ?
Ah !
Quelle situation ?
Vaste sujet, les règles du poker. Ça plaît pas, c'est toujours très compliqué. Mais pour en revenir, pour montrer sa main, en fait, bon, il y a un ordre en fonction des relances. S'il y a un relanceur initial qui est payé, c'est dans l'ordre, donc du coup, le relanceur va montrer en premier. S'il ne montre pas, le joueur d'après peut moquer sa main. Par contre, le joueur d'après peut demander à voir la main. Si la main est moquée, il a le droit de moquer.
Après, oui, parce qu'en fait, on paye pour voir.
Voilà, exactement, c'est le fameux « on paye pour voir ». Après, s'il n'y a pas d'action, par exemple, il y a une action à la turn, donc après le flop, il y a une action à la turn, il y a un premier qui attaque, enfin, on va dire, il y a un check, il y a une attaque du deuxième joueur qui est collée par le premier, et à la river, ça fait check-check, c'est dans l'ordre du bouton. Ça va être le premier de parole qui va être obligé de montrer. Alors que pourtant, à la turn, la relance initiale était
faite par... On part du principe qu'à chaque nouveau tour de mise, on repart de zéro. Quoi.
Voilà,
donc,
exactement.
Si c'est check-check, c'est dans l'ordre des aiguilles d'une montre.
Et par contre, si c'est check-check et le premier de parole monte ses cartes, est-ce que le deuxième a le droit de fermer ses cartes et pas de les faire voir ou pas ?
Oui, si le premier de parole montre un meilleur jeu, le deuxième a le droit de meuquer. A le droit de meuquer.
Meuquer, c'est cacher ses cartes.
Par contre, s'il y a vraiment un doute... S'il y a vraiment un doute de collusion, ce qu'on appelle une collusion, c'est un échange de jetons. Et là, on peut
ça veut
faire
dire, genre, nous, on se connaît et je vais. En fait, je fold en disant, comme ça, c'est toi qui récupères mes jetons. Quoi.
Voilà, en gros, t'as un gros tapis. Moi, il me reste 10 blindes, on va dire, et je suis vraiment dans le.
Tu me fais de la peine.
C'est dur, ouais. Voilà, c'est dur, c'est compliqué. Et donc, si on voit qu'il y a deux amis à la table et que le coup est assez suspect, on fait intervenir un floor qui, là, regardera les cartes. Que lui, bien sûr, mais il regardera s'il n'y a pas une passation de pouvoir, enfin de jetons plutôt, et un échange de jetons, en résumé, ce qu'on appelle une collusion. Et là, c'est pénalisable, bien sûr, parce qu'il y a divers degrés de pénalité, que ce soit demain, un tour, voire des fois des exclusions de tournoi, en fonction de ce qui se passe.
Parce que la collusion, c'est considéré comme de la triche.
C'est ça, exactement. Donc... indirectement, c'est une triche. Et dans le poker amateur, il y a beaucoup, beaucoup au niveau des règles. C'est vraiment très compliqué parce qu'on joue souvent avec deux jeux, ce qui ne se fait pas dans les gros tournois. Il y a le croupier, il a un seul jeu en main et donc il y a un croupier. Là, dans le poker amateur, on a un jeu bleu, un jeu rouge en général dans les, au niveau des couleurs. Et donc, il y a beaucoup, 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 malheureusement, de on commence avec le jeu rouge et puis c'est un autre qui va mettre le flop. On se dit, mais il y a une problématique là. Alors, comment arbitrer, etc. Il y a vraiment des vrais, vrais casse-têtes. Mais il faut toujours se mettre, un, en retrait. Deux, si nous, on ne sait pas, parce qu'il y a des vrais, vrais, il y a des vrais, vrais règles qui sont très compliqués à arbitrer. Et là, donc, nous, on est plusieurs. Au niveau du flooring, on est vraiment plusieurs. Et là, on se consulte pour prendre la meilleure décision pour l'ensemble
pour
de la table. Voilà. Exactement. On prend pas, il y a une impartialité. On ne prend pas parti pour un joueur ou pour l'autre. C'est vraiment, on regarde, on met tout en situation. Pour que ce soit vraiment le plus respectueux et le meilleur compromis, on va dire, pour l'ensemble des joueurs. Quoi.
Je crois qu'Aurore a un petit exemple à te parler.
Ah oui ?
Avec mademoiselle Gaëlle Baumann.
Ah. Exact. Il se trouve que Gaëlle Baumann, qui était joueuse pro Winamax, a fait les WSOP en 2012, alors pas que, mais notamment en 2012, elle est arrivée au moins dans les 100 premières
dernières.
C'était même au bord de la TF, je crois.
Ah oui. C'était dans les 10 derniers. Ouais. Ouais.
C'était
à un jour.
Un jour de la table finale.
De la fin.
Mais c'est l'année où elle a terminé à la 10e position du WSOP. Okay.
Oui, oui. Alors, du coup, t'as tout spoilé, Bou. mais effectivement, du coup, elle est arrivée dans les ITM et au moment où elle avait passé ce palier des 100 ITM, elle était milieu de parole, elle fait une relance. Le joueur qui est en dealer a envoyé son tapis pour faire folder les blindes, ce qui a fonctionné. Et comme les blindes ont foldé, le mec a meuqué sa main. Parce qu'en fait, il n'a pas vu que Gaëlle était dans le coup et qu'elle avait relancé. Et bah, elle était prête à coller le tapis, hein, forcément. Elle avait en main une fameuse paire de rois. Pour ceux qui veulent, vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, hein, le WSOP 2012 de Gaëlle Baumann. Ça fait couler beaucoup d'encre. Mais du coup, bah, en théorie, elle doit gagner le tapis du mec qui a meuqué, parce qu'elle est toute seule à être restée en jeu. Sauf que bah, lui, quand il s'est aperçu qu'en fait, elle était encore là, il n'avait pas envie de perdre ses jetons parce qu'il avait fait une erreur d'inattention. Donc ils ont appelé Flore. Boule, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, surtout.
C'est tout bien pour moi.
La règle veut que un joueur qui a meuqué ses cartes doit être à tapis sans ses cartes. Donc normalement, elle récupère le tapis puisqu'elle le couvrait du joueur. Sauf que là, après une grosse discussion du floor, ce qui s'est dit, c'est que pour l'intégrité du tournoi et sa notoriété, ils vont pas exclure un joueur du tournoi pour une faute d'inattention. Donc ils ont obligé le joueur à payer la relance. Mais ils l'ont gardé dans le jeu, enfin, il a gardé son tapis, il a juste payé la relance de Gaëlle, qui a engrangé sa relance, et puis basta. Mais au bout du compte, ça a un peu bouffé son tournoi, parce qu'elle a ruminé le truc en se disant qu'elle aurait pu être super maxi-max avec tout un tas de jetons, parce que le mec était quand même à plus d'un million et quelques de jetons, quand elle en avait déjà trois et quelques. Mais bon, voilà, ça lui faisait un tiers de tapis supplémentaire. Et du coup, c'est vrai que ça lui a un peu bouffé la fin de son tournoi parce qu'elle a beaucoup ruminé. Et on se dit, y a une règle. Et puis finalement, le floor a décidé d'une autre règle. Et c'est pas juste, en fait.
Alors, sur ce point, je l'ai vu aussi à plusieurs reprises. Et en fait, c'est très, très compliqué, honnêtement, à arbitrer. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a le fait qu'elle ait relancé, que le joueur fasse tapis. Et elle n'a pas eu son tour de parole, mais le joueur n'a plus de cartes. Donc, est-ce qu'elles sont encore identifiables? Parce que encore en plus, c'est des cartes, on va dire, pucées. Les cartes qui sont visibles. Donc, même si le streaming, c'est un monde à part, mais le joueur, s'il est capable d'annoncer, est-ce qu'on peut retrouver dans le mug, comme il y avait eu avec le cas Estelle Denis, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le croupier involontairement prend les cartes, chaque joueur est responsable de ses cartes. Faut le savoir. On se fait embarquer les cartes. Normalement, on met toujours des petites cartes cover pour protéger ses cartes. Donc ça, c'est un des paramètres. J'ai envie de dire, les deux formes d'arbitrage sont
Défendables.
Sont défendables, oui, exactement. Parce qu'en fait, ils ont fait payer à hauteur de la relance, donc le joueur a payé sa sanction. Mais c'est sûr que quand il arrive, qu'elle peut prendre potentiellement, parce que sa main de roi sur As-Valet, on est vraiment sur du 70-80% de chances de gagner dans ces eaux-là, à peu près, Tom. Donc, il y a de grandes chances qu'elle le prenne, mais on n'est pas à l'abri aussi qu'elle sorte de ce tournoi.
Elle le couvre en même temps, donc...
C'est ça.
Moi, il faut que je fasse attention avec les pourcentages, que les auditeurs, ils m'ont dit que je me suis trompé pendant la première émission.
Ouais, après, voilà. Si on a 10%...
Mais, oui, mais quand même, j'ai reçu le message.
Nous, à 60, on part du principe, on a 30%.
Non, mais, oui, allez,
non, mais pour en revenir, c'est un cas très, très compliqué à arbitrer. Et j'ai envie de dire, les deux cas sont défendables et s'écoutent. Parce que là, le fait que Gaël... ça se comprend, hein, y a 1,3 million à prendre, derrière, à part, et c'est oui. Tout droit, hein, comme on dit. Hein. C'est tout droit, t'as l'ATF, t'as peut-être le Saint Graal, le titre le plus honorifique du poker qu'il puisse y avoir, les World Series, le Main Event. Derrière, oui, c'est très compliqué. Et si je ne me trompe pas, c'est ce joueur-là qui la sort à la 10e place, il me semble. Comble du tournoi.
Fait,
c'est pour elle, c'est vraiment c'est double sanction.
Je pense que je lui mets des gaffards dans ce livre.
Mais c'est vrai que c'est très complexe. Et là, je pense que là, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a interrogation de tous les flores. Parce que c'est vraiment très compliqué. Parce que le joueur, est-ce qu'elles sont identifiables? Est-ce qu'il a l'exactitude de ses mains? Est-ce qu'il peut le rattraper? Est-ce qu'il va jouer à tapis? Est-ce qu'elle ne va pas perdre non plus? Elle peut perdre ce coup, même s'il joue potentiellement 3 As, on va dire, dans la logique.
Ah, mais pour moi, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il doit récupérer ses cartes. Il les a muck. Donc en fait, c'est est-ce que on l'autorise, comme bah, là, ça a été le cas, à juste payer la relance et puis voilà, ça va, t'es safe, ou à juste t'es fold et t'es mort en fait.
Bah, normalement,
il n'y a pas de ouais. Je récupère mes cartes et je joue le coup.
En effet, ça va plus partir sur le cas de ce que voulait Gaël, parce que le joueur, c'est de sa faute, c'est lui qui jette ses cartes. Après, le croupier, machinalement, hein, c'est des réflexes,
oui, c'est
un automate. Hein, hop, elle arrive, boum, ça part, c'est dedans.
Puis le croupier est fatigué aussi, ça fait
c'est
deux
ça,
mois qu'il est.
Vraiment comme ça, c'est une grosse,
même
grosse.
Avant d'en arriver là, déjà, il annonce le all-in quand même sur la relance à Gaël. Quoi. Du coup,
il y a une
annonce qui est faite, il y a quand même une parole qui est faite et c'est ce qui prime au poker. Quoi,
la parole prend le dessus et c'est vrai qu'il aurait dû aller à l'abattage. Enfin, voilà, il joue le board quand elle a la serroi. Mais je vous avoue que c'est extrêmement compliqué. Un cas comme celui-ci, ça fait partie des cas qui sont vraiment, vraiment, vraiment compliqués.
Puis surtout qu'on n'est plus dans le monde associatif et qu'il y a 17 millions à la gagne.
Et le titre de...
Il
n'y
avait pas autant que ça en 2012, mais il y avait plusieurs millions à la gagne.
On parle de 10 millions minimum à la gagne.
Prestigieux déjà,
oui, oui, non, mais
il y a le titre prestigieux.
Et puis comme on dit dans la première partie de l'émission, là, c'est vraiment avec la pression un peu d'argent quand même aussi. On ne va pas se mentir, ils sont là pour faire de l'argent aussi, ces gens-là.
Mais c'est vrai,
c'est sûr.
C'est vrai que je pense que, enfin, dans la décision, moi, j'aurais pris le fait qu'il joue le board, en fait. C'est lui qui annonce tapis, c'est lui qui muck, c'est lui qui fait l'erreur. L'erreur, elle n'est pas de Gaël. Gaël, elle fait sa relance. Alors, ils ont parlé pour l'intégrité du tournoi. Mais il reste encore une centaine de joueurs dans ce coup-là. L'erreur, elle vient de chez lui. C'est trop... Sauf si on voit vraiment une espèce de collusion, etc. Mais là, dans le principe même, sur l'ensemble du coup, l'erreur vient quand même de chez lui. Et...
Ou à moins que le croupier n'a pas annoncé aussi. Parce que moi, j'ai vu ce week-end, si le croupier n'a pas annoncé, c'est peut-être aussi... Il peut avoir ambiguïté.
Ah, si le croupier n'a pas répété le all-in ?
Ouais, le all-in ou relance...
J'ai envie de dire... on se doit de suivre au poker. C'est la règle numéro 1.
Ouais.
C'est la règle numéro 1. On paye, toute erreur est payée. Hein. C'est un classique, que ce soit dans le jeu, dans le tout. Et donc là, elle est en middle parole à peu près, je crois. Donc en fait, on a le temps. Il y a 3-4 joueurs avant nous quand même. Donc si on est vraiment...
Surtout qu'on prend son temps, je pense.
Voilà.
Pour ce genre de tournoi, je pense qu'on est quand même... Ça. Après, la fatigue est là aussi. Hein. Ça faisait souper. 5 jours qu'il jouait. 5 jours de 10 heures, ça fait 50 heures de poker. C'est physique quand même. Hein. Ce qu'on parlait aussi avec Barbe Bleue du Red Cactus...
La fatigue, c'est un vrai sujet. Après, c'est un vrai sujet. En même temps, c'est à qui mieux. Qui va mieux la gérer que l'autre? Si tu fais une erreur d'attention parce qu'il y a la fatigue qui joue, bah, c'est pour ta gueule. Hein. Enfin...
C'est ça, c'est au poker, tout
moi,
se paye.
Moi, j'ai pas de pitié.
Oui,
en plus, c'était une joueuse française, forcément. J'ai envie
bien
de la
sûr,
défendre.
Bien sûr, on est premier soutien. Et il y a eu... Il y a eu, en parlant de petite attention par rapport à la concentration dans un tournoi et tout... En finale Red Cactus, au moment d'ATF, la femme qui était chip leader a fait ce move qui lui a coûté son tapis.
Oh là 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 là.
En fait, il y a une ouverture sur 100, 150. Il y a une ouverture d'un joueur de Reims à 300 000. Et elle a chauve son tapis 3 millions avec Valet-Dame de trèfle. Un move qui peut se faire. Sauf que juste derrière, il y a deux as. Et tout de suite, dans sa tête, c'est même à la parole, parce que moi, j'étais là. Et elle dit, mais quelle erreur j'ai fait. Mais ça, c'est pour revenir sur l'histoire du 1 millième de seconde et on fait une erreur et on la paye cash.
Surtout qu'elle nous avait dit en interview qu'elle était prête à folder des grosses paires.
C'est ça.
Nous, quand on l'a vu faire ce move, on a halluciné. Hein.
Ouais, j'étais là genre, pourquoi ?
Ouais, c'est derrière, c'est ça en fait. Elle est partie, mais...
Elle voulait faire folder. C'est ça. Heureusement, la grosse blonde était très, très, très armée.
C'est des moves qui font partie du poker, quoi. Donc,
Bon. Eh bien, voilà pour notre règle du jour.
Très difficile.
Ouais, pour en venir.
Il y a une règle, et puis parfois, on peut quand même faire intervenir le floor, quoi.
Des fois, il y a des.
C'est vraiment litigieux.
Il faut prendre tous les paramètres en compte, quoi.
Prochaine rubrique.
La main parfaite du Tilt Show.
La main parfaite, c'est la rubrique où on prend un exemple de main et on essaie de vous l'expliquer de quelle manière on peut jouer selon les styles de jeu et au mieux pour la gagner, hein, bien sûr. Tom, t'as un exemple pour nous ?
Allez, on est parti en petite blinde à 4 restants d'un tournoi. Nous avons 35 blindes. Nous sommes en petite blinde, donc tout le monde a foldé. Nous sommes plus que 2 dans le coup. Nous avons 8 de trèfle et 9 de pique contre la grosse blinde. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de coller pour voir, en fait, pour rappel, la big blind n'a que 9 blindes. Et a déjà posé une blinde, 10 blindes et a déjà posé une blinde. Donc elle n'est plus qu'à 9 blindes et moi, j'ai 35 blindes. Donc je préfère coller là-dessus parce que ça ne me coûte pas très cher. Et en fait, si la grosse blinde fait un move, je peux folder à tout moment. Okay. Chose qu'il ne fait pas, il a checké. Le flop, on arrive avec roi de trèfle, 9 de trèfle et valet de trèfle. Donc voilà, c'est à moi de parler vu que je suis petite blinde. Moi, j'ouvre à une blinde et demie.
Toi, t'as un trèfle hein, dans les mains.
Moi, j'ai un trèfle, j'ai le 9 de trèfle.
Okay.
Donc voilà.
Donc tu fais une petite...
voir s'il a touché ou pas. La grosse blinde m'envoie son all-in et je le paye.
Ok.
Je le paye parce qu'en fait, il joue plus que 9 blindes et je me dis que j'ai touché une paire déjà et que potentiellement, j'ai un trèfle peut-être plus gros que lui ou pas. Donc voilà. Donc on monte tous les deux nos cartes. Il a un roi, donc il me bat déjà, et avec un 7 de trèfle. Et... Le turn, c'est un 6 de carreau. Et la river, un 10 de trèfle.
Ouh, et là, tu respectes.
Et là, du coup, je gagne avec ma couleur trèfle. Mais je pense avoir fait des erreurs suite à des conversations avec un coach.
D'accord, juste tu récapitules. Hein. T'as juste call. Après flop.
Je colle pré-flop pour voir pour pas mettre
tu colles pré-flop
en jeu en fait.
Tu ouvres au turn, c'est collé. Non, c'est bim, tu te prends le tapis.
Joue au flop à une blinde et demie. Il m'envoie ses 9 blindes restantes. Okay.
Et tu colles. Donc
et
après
et après bah c'est qu'il est devant moi parce qu'il a un roi avec hauteur roi avec un 7 de trèfle.
Et donc ton erreur c'est d'avoir collé le tapis ?
Bah on va discuter avec les autres, on va demander à Boule déjà qu'est-ce qu'il aurait fait. Et
ça,
on
c'est vrai,
discutera boule. Après du conseil qui m'a été prodigué.
Je pense que pré-flop, moi, j'aurais fait un petit open juste à 2 bébés en open fold, en fait. C'est-à-dire, j'ouvre à 2 bébés. S'il me colle, on va voir le flop. S'il envoie sa boîte, je peux toujours folder.
Donc toi, tu le relances pré-flop, du coup.
Ouais, je pense que j'aurais relancé avec juste une bébé supplémentaire. Comme il a vraiment pas beaucoup, pas non plus se retrouver commit d'un coup tout de suite d'entrée.
Commit, pas être obligé de le payer.
Folder par la suite, en fait. Et du coup, sur le flop Dame-9, Valet à trèfle, je check. Ton truc préféré, toi, Aura.
Ouais, check.
Et du coup,
spécialiste.
Je check. S'il check, ça me va, on va voir la turn. Après, s'il ouvre juste à une ou deux bébés, je pense que...
S'il te pousse les 9 blindes, tu vas pas.
Non, je pense que moi, je trouve un fold à cet endroit-là et que je vais pas plus loin. Après, s'il check et qu'on va voir la turn, du coup, sur le 6, je continue mon check. Par contre, là, du coup, comme il a pas envoyé au flop... Je peux...
Profiter de sa faiblesse, t'as dû...
Ouais, puis je pense qu'en ayant déjà touché, du coup, ma paire,
Oui, profiter de sa faiblesse
il a,
du,
il a pas
du dit, check.
Il n'a pas annoncé de force, ni sur le roi, ni sur la dame au flop. Du coup, bon, s'il envoie...
Oui, c'est ça, il a peut-être un œuf aussi, comme toi.
Il reste encore la moitié derrière. Je me dis qu'il peut essayer de me faire folder. Je peux call quand même. Il y a toujours le tirage trèfle qui peut arriver qui arrivera d'ailleurs par la suite. Et du coup, sur la river, pour moi, c'est un check. Par contre, quoi qu'il en soit, s'il envoie sa boîte, c'est un call sur son all-in. Quoi.
Avec ton 8 de trèfle, tu vois.
C'est potentiellement un check-check. Normalement, sur la river, à cet endroit-là, c'est potentiellement un check-check, en fait. Quoi.
Ok. Moi, j'aime pas du tout jouer les mains connectées off, comme ça. Donc du coup, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que quand il m'envoie ma boîte, moi je me barre, je paye pas.
Bon, en tout cas, moi j'ai eu l'avis d'un coach professionnel sur cette main-là. Donc pour lui, c'était un call en pré-flop.
Comme t'as fait, du coup ?
Comme j'ai fait, parce qu'on jouait que 0,5 blindes, donc c'est super intéressant de coller, parce que lui, il peut avoir 10 et 2, il peut avoir 7 et 2, il peut avoir n'importe quoi en fait. Le flop, vu qu'on avait touché, c'était un check pour lui. Il check pour laisser tous les bluffs. En fait, on mise au poker pour soit faire de la value, soit mentir, pour gagner en fait. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'on a touché. Et faire de la value sur ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire folder une dame ou un roi là-dessus en fait. Donc c'était check pour à lui d'y laisser tous ses bluffs. Et lui, s'il envoyait son all-in... au flop, en fait, c'était un call parce qu'on avait, au niveau des équités, on était dedans et puis on était obligé de. Mais il fallait laisser, en fait, ses bluffs, en fait, à lui.
Bah, finalement,
parce qu'avec un Axis, il aurait pu te bluffer, en fait, en croyant que toi, t'étais faible et que t'avais rien touché, en fait. Il peut faire ça avec 7 et 2, avec 10 et 4, il peut faire ça avec n'importe quoi,
finalement,
en fait.
Il y a déjà 3 gros trèfles au-dessus du tien qui sont tombés au flop.
C'est ça.
Et du coup, ça limite
ça limite de trèfles et ça y laisse tous ces bluffs potentiels, les A6, les 10-6, les n'importe quoi, en fait, ces tirages quintes ventrales. En le payant, tu joues pas, toi, ton tournoi, parce que t'as 35 blindes contre 9 blindes, en fait, donc tu joues pas encore ton tournoi, en fait.
Ok.
Donc voilà, l'esprit...
Moi, j'aurais pas joué comme ça.
Ouais, encore différent.
En fait, je m'appuie sur ce qu'on appelle le tableau de Nash, le tableau de référence, la valeur de la main en fonction des blindes. Si on doit chauve ou call. Et en fait, je pense que là, avec du recul et en écoutant, déjà, je pose la question pré-flop. Pour moi, tout se passe pré-flop. C'est-à-dire que je vais relancer, je vais peut-être faire un 2,5. Parce que 2,5, voilà. Si le mec, il a une main, automatiquement, on va entendre les sirènes. Hein. Il va tout mettre au milieu. Et
ouais, t'as déjà perdu 2 blindes.
J'ai perdu 2 blindes et je le laisse à 12 blindes. Il va être à 12 blindes quand j'en ai 33 encore derrière. Donc, en gros, je lui mets pas... Je perds quasi rien. Et lui, je le remets pas dans le contexte. Surtout si c'est un joueur qui vraiment est très compliqué sur ma gauche. Donc, je pense que tout se passe ici. De toute façon, le joueur, il peut pas que coller là-dessus. Est-ce qu'il se garde 7 bébés, 8 bébés? Ouais, et pour aller voir le flop, le seul truc qu'il a sur moi, c'est la position. Il va avoir la position. Donc le flop, s'il a quelque chose déjà pré-flop, on va dire, je sais pas, Roi-Valet, une main potentielle où il va pousser, je vais entendre les sirènes tout de suite. Donc après, s'il a, comme là, c'est Roi-7, si je me trompe pas. À partir de là, surtout le flop qui arrive, Roi-Dame-9, je prends ma paire et j'ai le tirage trèfle. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va au bout. Je mets les 8 blindes qui lui restent. Ça va y aller, je joue open, j'ai potentiel trèfle, j'ai ma paire, je peux faire 2 paires, je peux faire runner quinte peut-être mieux que lui. Enfin, j'ai quand même quelques portes de sortie et de toute façon, mais
si on voit le flop dans notre position, on est obligé d'aller au bout.
Bien sûr, automatiquement, je joue open, je peux pas.
C'est moi qui va pas au bout.
Je peux pas check parce que s'il met un bet, automatiquement, ouais, c'est juste.
Et oui,
moi, pour moi, il joue pré-flop le coup. Je l'aurais joué comme ça. Je vais vite savoir et j'ouvre à 2,5. Ouais.
Et oui, comme on vous a dit dans l'émission précédente, 1 million de joueurs, 1 million de façons de jouer.
Exactement.
Et voilà.
On n'a pas la. Ouais.
Mais ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que si on mise, si on ouvre, c'est pour soit faire de la value, soit faire un bluff, grosso modo. C'est ça le conseil du coach, en
moi,
fait.
Moi, c'est ce qu'on m'a appris, ouais. C'est ça, c'est...
Et puis si on chauffe direct, on entend call, on parle
pas très bon,
on a 30%.
Ouais, voilà.
Et comme on dit, en direct de Lourdes.
Et voilà. Et la chatte à 60.
Voilà, exactement, t'as tout compris. On va toucher.
Allez, on passe à notre dernière rubrique. L'écho des tables, c'est toujours un sujet soit débat, soit d'actu. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de personnes qui sont à nos tables quand on joue au poker, qui sont toujours là et dont on ne sait presque jamais rien. Les croupiers, puisque Polak est avec nous. Donc tu as dit que tu étais capitaine de son équipe de poker amateur. Mais à côté de ça, tu as aussi dit que tu baignais dans le monde du poker pro. Et oui, parce que tu es croupier.
Exactement. En fait, donc, j'ai commencé ce métier en 2009. Avant, j'étais dans l'armée de l'air. Et donc, en 2009, il y a eu dissolution de l'unité où j'étais. Et donc, je me suis retrouvé croupier, mais c'est pas par hasard, en fait. Faut savoir qu'en 2006, à Villers-Cotterêts, on a créé la première asso de poker en Haute-France. On était 3-4 amis. Et puis, en fait, on faisait vivre cette association. Et donc, quand j'étais à l'armée, je jouais aussi avec tous les mardis. On jouait avec les amis, les collègues de boulot. Et quand il y a eu dissolution, tout le monde, du jour au lendemain, on va faire quoi. Et il y a un ami qui me soumet, il dit « Mais toi, t'adores ça, tu vis tes passions, t'as fait de la musique, c'est ta passion, et pourquoi tu ferais pas ça ?» Et là, j'ai eu le déclic, mais j'ai dit « Mais ouais, t'as entièrement raison, quoi. » Et donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais droit dedans. Et, donc, du coup, je me suis retrouvé à faire la formation. Elle a duré un mois, c'était à Paris. Et le centre de formation est en partenariat avec l'Aviation Club de France. D'accord. Et je voulais absolument intégrer l'Aviation Club de France. C'était mon but ultime.
Parce club que, très prestigieux parisien.
Ok, oui, je sais la chance que j'ai eue de travailler là-bas. Et donc, j'ai fait les 5 dernières années jusqu'à la fermeture. Et donc, j'ai eu cette chance, donc, non seulement d'intégrer ce club prestigieux, enfin, le cercle à l'époque, mais surtout de dealer la table finale des World Poker Tour, qui, à l'époque, quand on voyait les émissions avec Patrick Bruel. Et je l'ai fait au bout d'un an et demi de deal, et j'étais le plus heureux. On était, y avait deux femmes et on était deux hommes, et c'était un moment juste magique. Et j'ai intégré ce métier, et surtout dans le milieu parisien. Ensuite, il y a eu la fermeture des cercles à tour de rôle, où l'État a remis, entre guillemets, de l'ordre. Et donc, du coup, je suis resté dans ce métier, mais en freelance. C'est-à-dire que j'ai travaillé notamment avec Lucille Desnos sur les barrières Poker Tour. J'ai fait quelques événements à Marrakech. Vraiment, mais j'ai essayé de rester surtout en France parce qu'à côté, j'ai l'association de poker. J'avais la musique, j'ai ma famille, j'avais ma fille. Donc, ce métier qui est à part, mais qui est vraiment, vraiment prenant. Et c'est surtout, il y a de magnifiques histoires, magnifiques moments, et surtout ça nous permet aussi de voir du jeu. On est de l'autre côté, on ne joue pas, mais par exemple en cash game, quand il y avait les World Poker Tour, les plus grands joueurs mondiaux, les Phil Hellmuth, Jason Mercier notamment, venaient jouer en cash game à l'Aviation Club de France, parce que dans ce club, on faisait toutes les variantes de poker. Il y avait une quinzaine de variantes environ. Et ils pouvaient jouer à toutes ces variantes qu'ils adoraient, avec Bruno Fitoussi qui les faisait venir. Et c'était des grands, grands moments. Et donc, dealer les Jason Mercier, Phil Hellmuth, Freddy Dib notamment, c'était juste magique. Et il y a eu des anecdotes comme Tony G, qui, par exemple, donne un jeton de 1000 euros de pourboire au croupier. On a eu
Allez.
Des...
Allez.
Il y a eu plein, plein de choses. Il y a eu aussi des mains. Il y a eu des mains dans le métier. J'ai vu sur un tournoi qu'on faisait tous les vendredis à l'Aviation Club de France, il y a une collègue, à un moment, je vois un attroupement. un vrai vrai attroupement autour de la table. C'est un tournoi, c'est un 100 euros ribaille, si je ne me trompe pas. Et là, je vois tout le monde, et là, je vois abattage, ils sont 4 à tapis. Il y a paire de 2, paire de 5, paire de 9, et si je ne me trompe pas, c'est 7 et 8 de trèfle. Non, c'est 6 et 7 de trèfle, c'est ça. Le flop, 2, 5, 9. Brelant, 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 avec 5 et 9 de trèfle. Tirage quinte flush pour le quatrième ventral. Eh ben, pan, le 8 de trèfle. Ce coup-là, c'était, ça fait partie des plus gros coups que j'ai vus. Et moi, dans le deal, un qui m'avait marqué, c'est tapis de roi contre deux as. Au flop, je mets le roi. À la turn, je mets l'as. River, le roi.
et voilà.
Et j'ai vu l'ascenseur émotionnel. Ouh, c'était...
C'est
Mais c'est vraiment un métier vraiment magique parce que ça permet aussi de, un, d'être dans le travail, dans le contexte, de voir les nouvelles règles, de voir le...
Oui, il faut que tu tiennes au courant de la réglementation qui évolue à chaque fois.
Parce que dans n'importe quel room, ça différencie un petit peu quand même.
C'est ça. Et on essaie de s'approcher au maximum du TDA, des règles internationales. Et c'est surtout, j'essaie aussi, quand je reviens à Soissons, de faire appliquer au maximum. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, que ce soit au niveau des structures de tournoi, de la jetonnerie, de l'aspect du jeu, pour que l'amateur puisse avoir les meilleures conditions possibles, comme s'il faisait un tournoi qui coûte, je ne sais pas, 500 000 euros, par exemple. Et qui peut aussi amener un jour, il va faire, je sais pas, par exemple, la finale du Winamax Poker Tour, c'est une entrée à 500, s'il l'a eu gratuitement, il a cette chance.
Au moins, il sait où il se met les pieds, il sait comment ça va jouer.
Qu'il ne se fasse pas piéger, on va dire, au niveau du...
Des petites règles qu'on voit dans les cercles, dans les casinos, qu'on voit, c'est des tout petites règles qu'en associatif, on n'applique pas forcément, que moi, je vois quand je joue... Autre part, que ça change la donne quand même.
C'est très très important les règles au poker. Et surtout, même dans le monde amateur, à chaque fois on se dit « Ah non, c'est pas grave, vas-y, allez, vas-y. Non, non, une carte qui sort de la table, ça change complètement le coup. »
Non, mais c'est une habitude à prendre.
Bien sûr.
Mais du coup, t'es rentré dans ce métier par passion, par un petit déclic que quelqu'un t'a dit « Tiens, pourquoi pas ?» Par passion, t'as tout de suite eu des beaux souvenirs qui se sont créés, empilés. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es dans le métier ?
Ça fait 15 ans maintenant. 15 ans, ouais.
Et oui. Et t'es toujours freelance ?
Je suis au Club Barrière. Donc, de nouveau, au 104 Champs-Élysées, donc dans ce lieu. Mais ce coup-ci, c'est avec le groupe Barrière. Je travaille pour le groupe Barrière. Et là, je suis chef de table. Donc maintenant, on fait non seulement du poker, cash game ou tournoi, mais aussi côté jeu trad. C'est-à-dire, il y a l'Ultimate Poker, Blackjack, Punto Banco. Et on attend avec impatience les décrets et surtout la roulette. La roulette qui est un jeu au niveau des joueurs... juste magnifique. Après, bien sûr, comme on a dit, hein, avec son budget, et tout en faisant toujours attention. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il faut souligner quand il y a des bonnes choses qui sont faites aussi par l'État, c'est l'aide au niveau des joueurs par rapport à l'addiction, etc. Aujourd'hui, nous aussi, on apporte une aide. On est le point de départ par rapport aux joueurs qui vont jouer peut-être plus que leurs moyens, qui vont avoir une dépendance, qui vont commencer à être pris et où ça va engendrer des problématiques sur leur famille, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment une réglementation qui est mise en France, même des fois très dure. Ils devraient laisser un peu de façon de parler de l'Est, notamment au cash game, de turn de river, enfin c'est des détails, mais il y a vraiment quand même une réglementation qui est très très marquée. Et
en France, oui.
Qui évite... Plein de choses, notamment le maximum, le blanchiment, enfin j'en passe quoi, mais c'est très...
Boule, en cas de problème d'addiction, d'endettement, de comportement compliqué face au jeu, tu nous rappelles le numéro qu'on peut appeler,
ouais,
que ce soit pour soi ou pour les autres hein, d'ailleurs.
C'est ça, que ce soit pour vous, donc que vous soyez touché directement ou indirectement par un problème de jeu excessif, vous pouvez contacter le 09 74 75 13 13 de 8h à 2h et 7 jours sur 7.
Merci, c'est important, il faut le dire. Et puis des fois, ça commence juste par des engueulades à la maison. Ouais, t'as encore dépensé 100 balles, nani. Et en fait, ça impacte pas que le compte en banque, ça impacte aussi la vie sociale, c'est très important.
Et je tiens à dire aussi, donc nous, moi je suis pro-live à 2000%, mais surtout, ça peut aussi avoir un impact parce que le online, en 5 minutes, on allume l'ordinateur, on se met sur un tournoi. et la famille, etc. On peut la mettre de côté, malheureusement, et ça crée beaucoup, beaucoup, des fois des séparations, plein de choses. Aujourd'hui, le online, c'est une facilité incroyable. Et aujourd'hui, on a même des trackers. Enfin, il y a des joueurs qui jouent avec des trackers, plein de choses. Moi, aujourd'hui, rien ne vaut le live.
Oui. Pour moi, là, tout à fait d'accord.
C'était notre petit débat de l'émission de la dernière fois. Merci beaucoup, beaucoup, Polak, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, Boule. Merci, Tom, pour cette belle émission. Chers auditeurs, passez une bonne fin de week-end. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission.
Au revoir, tout le monde.
Au revoir.